Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est le 29e de cette 16e saison et je reçois comme invité aujourd'hui Jean-Marc Jansana. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Monsieur le maire.
Merci de me recevoir.
Puisque vous êtes alors maire de Montredon-des-Corbières, vous êtes également vice-président du Grand Narbonne chargé alors des transports et des mobilités, c'est le terme à la mode, et Jean-Marc Jansana, on va revenir un peu plus en détail sur ce que tout cela signifie et implique. Mais tout d'abord, expliquez-nous en quelques mots comment, quel est votre parcours professionnel et comment vous en êtes arrivé à être élu maire. C'est votre premier mandat.
Oui, tout à fait.
Je rappelle aussi que vous faites partie des certains nombres de maires de la ceinture ou de la couronne narbonnaise qui ont été élus. Ils sont des nouveaux maires qui ont été élus l'an dernier.
Oui. Hein,
il y a votre commune. Il y a
Alain Viala d'Avizané. Il y a Jean-Marie Monnier à Moussan.
Voilà, il y a Moussan. Il y a Bages également.
Jean-Louis,
je crois qu'il y a Fleury.
Oui.
Donc autant de collègues que je suis amené à recevoir à mesure. Et donc vous êtes là, Jean-Marc Jansana. Donc en quelque sorte, vous avez pris vos repères assez récemment. Bon, ça y est, vous êtes à peu près bien installé dans votre fonction de maire.
Ça y est, maintenant, le 28 mai, on fêtera la première année de mandat. Ça a été une année un peu compliquée, on ne cache rien.
Bah,
parce
oui.
Que, déjà, venir en alternance avec une municipalité sortante qui n'a pas été reconduite, c'est toujours une difficulté.
C'est jamais simple, oui, exact.
Voilà, déjà. Ensuite, le fait que nous soyons tous élus sans avoir été au préalable conseillers municipaux.
Oui, c'est encore plus rude.
C'est assez rude. Ensuite, on a eu quelques soucis au niveau de certains personnels, mais ça a été assez réglé depuis le début de l'année. Et pour finir, donc, la crise sanitaire que nous avons rencontrée, qui a mis à l'arrêt pas mal de projets, notamment des projets d'animation dans le village, et qui nous a contraints à avoir des situations.
Alors, on va revenir sur toutes ces choses-là, la façon dont vous gérez et dont vous devez gérer à mesure que vous découvrez un certain nombre de choses. Est-ce que vous étiez prédestiné à faire de la politique, à entrer dans la vie municipale ?
Pas vraiment. C'est vrai que j'ai toujours vécu à Mordon, depuis que j'ai 5 ans. J'habite dans le village. Je m'y intéresse forcément, parce que c'est mon village. J'étais déjà candidat en 2014, mais la liste n'avait pas été retenue au second tour. Et là, donc, on s'est représenté en 2020.
Voilà. Et là, cette fois-ci, vous avez, si vous me permettez l'expression, décroché la timbale. Au point de vue formation, vous avez fait du droit, je crois, Jean-Marc.
Oui, moi, j'ai une maîtrise de droit privé, carrière judiciaire. Ensuite, j'ai travaillé pendant 11 ans dans le milieu social HLM, chez deux bailleurs, un privé et un public. J'ai aussi une activité de reportage vidéo pour mon compte. Donc, ça m'a permis d'avoir un goût pour la communication et pour les éléments, notamment
oui,
en
ça,
vidéo.
Ça doit vous servir.
Ça sert un petit peu, ouais, effectivement. Et enfin, je suis dans l'immobilier donc depuis 2013.
Et c'est votre profession actuelle.
Voilà, j'ai créé mon agence en 2017.
Alors, Jean-Marc Jansana, donc, deuxième présentation en 2020, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, vous entrez dans la mairie de Montredon, mais peut-être pas de la façon dont vous l'auriez souhaité.
Et oui, parce que c'était très... Personne, je crois, aucun candidat à ces municipales ne prévoyait ce qui allait se passer. C'est-à-dire que quelques jours avant le scrutin, on ne savait même pas si le scrutin allait être maintenu. Le soir, après le dépouillement, à huis clos, avec le public qui nous observe derrière les baies vitrées, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'embrassade, il n'y a pas de célébration de victoire.
Oui, comme ça doit se faire habituellement. Pourtant, vous êtes élu au premier tour.
On est élu avec 65% face au maire sortant. Donc forcément...
Et un score plébiscitaire, presque.
Bon, alors je pense que c'est un score d'adhésion, mais c'est aussi un score de rejet. Il ne faut pas être...
Oui, c'est ce que j'entends par là. Oui.
Voilà.
Et alors, vous arrivez dans la mairie. Qu'est-ce que vous découvrez quand même des choses qui ne vous ont pas... trop plu en arrivant.
Oui. Alors c'est vrai que dès qu'on est en fonction, on est quand même désigné, on est vainqueur le 15 mars, mais le confinement commence et on n'est installé que le 28 mai.
Exact. Hein.
Donc le 28 mai, je suis désigné maire à 14h et au même moment, le trésor public envoie un mail à la mairie, au nouveau maire, pour l'informer que le compte de gestion est à moins 28 000 euros et que nous avons 855 000 euros d'impayés. Donc 500 000 euros d'investissement et 300 000 euros de fonctionnement. et la quasi-impossibilité à la fin du mois de mai de payer la masse salariale et les 60 000 euros qu'il faut payer d'employés municipaux. C'était pratiquement mission impossible.
Oui, alors ça, c'est un choc. Quand on arrive, comme vous, la maire, on rentre en mairie, on apprend ça comme première information.
Oui, surtout qu'en 2020, l'ancien maire avait emprunté 800 000 euros soi-disant pour financer les travaux de l'entrée de la commune, hein, l'avenue du Languedoc. Et pour autant, on nous annonce qu'on doit 300 000 euros à l'entreprise qui a fait les travaux. Et on comprend très vite que ces travaux, ils ont mal été calibrés et que donc on doit maintenant payer les pots cassés. Donc avec ma première adjointe, Lise Fournier, en charge des finances publiques, on reçoit le trésor public qui nous dit « vous n'avez pas beaucoup de solutions hein. ». Vous aurez à augmenter les impôts, c'est fatal. Et en plus de ça, vous allez devoir payer ces impayés auprès des entreprises. On ne pouvait pas laisser les entreprises dans la difficulté. Donc on recourt à un emprunt de 1 100 000 euros pour justement financer les travaux de notre prédécesseur.
Oui, 1 100 000 euros, 1,1 million, pour un budget global de la ville qui tourne en tout autour de 3 millions, je crois, entre l'investissement et le fonctionnement.
Exactement. Sauf que le fonctionnement, il s'impose à nous. Hein. On est sur 1,8 million de fonctionnement.
Pas le choix.
Pas le choix, même si on doit faire d'énormes efforts de réduction du train de vie de la commune. Donc certains ont déjà porté leurs fruits, puisqu'on a réussi dès la première année à envoyer 243 000 euros d'excédent de fonctionnement sur l'investissement pour le budget 2021. Et on continue à faire des efforts drastiques. Donc on nous a demandé de faire des cessions d'actifs. Je procède à la vente d'une remise qui était au service technique pour apporter 100 000 euros dans les caisses de la commune. On a été contraint aussi, mais ça a forcé, d'augmenter de 21,10% à 24% la taxe foncière.
Oui, sur la fiscalité. Vous avez forcément revu la fiscalité.
Voilà, c'est un levier pour permettre de faire entrer 73 000 euros de plus dans les caisses de la commune. Donc c'était obligatoire. On n'avait pas d'autre solution. Et l'auditeur qui est expérimenté, il a été directeur financier du Grand Narbonne, qui audite actuellement la commune, nous donne vraiment comme indicateur que nous allons avoir un mandat de gestion, mais pas un mandat de réalisation, en fait.
Oui, là aussi, c'est une annonce assez abrupte, mais qui, quand on déchiffre, dit bien ce qu'elle veut dire. Alors, monsieur le maire, donc justement, vous arrivez, vous nous avez expliqué l'état dans lequel vous découvrez la commune, vous revoyez un petit peu la fiscalité. Et alors, forcément, un mandat de gestion, ça veut dire que vous êtes contraint de renoncer à vos grands projets.
Renoncer ou retarder, parce que c'est vrai qu'on ne perd pas le fil qu'on a une commune qui est très demandée, on a un développement qui est attendu en termes d'urbanisme, on ne veut pas commettre les mêmes erreurs que le projet d'aménagement durable, de développement durable qui avait été fait par l'ancienne municipalité, c'est-à-dire mettre des maisons dans la garrigue. On ne veut pas toucher à notre environnement naturel, mais pour autant il va falloir qu'on accueille quelques moredonnés qui tapent à la porte et qui veulent vraiment venir vivre dans notre commune.
Oui, parce que sur votre commune, il y a déjà des zones industrielles le restant est appelé à se développer énormément, avec un pôle santé très très important qui va être opérationnel d'ici quelques semaines, je crois.
Oui, normalement, l'inauguration, c'est le 7 juin. Et effectivement, j'ai passé 2 jours la semaine dernière avec la commission de sécurité. On y retourne vendredi 7 mai et le 27 mai, ce sera la dernière commission de sécurité pour acter l'ouverture à la fois de l'hôpital privé du Grand Narbonne, HPGN, et de la maison des consultations. Effectivement, ça a un attrait considérable sur le territoire, pour Montredon, mais aussi pour Bizanet et Nevian, aux alentours, mais essentiellement
et probablement Montredon. Même au-delà.
Et même au-delà, effectivement, parce que il y a un premier rayon qui se fait, et ensuite, par cercle concentrique, ça va se développer aussi ailleurs.
Oui, c'est probablement l'est du département audois qui sera concerné, qui sera drainé en quelque sorte. On va y revenir là-dessus parce que ça apporte quelque chose, mais on va voir que ça pose aussi un certain nombre de problèmes.
Tout à fait.
Mais donc vous retardez. C'est quoi le grand projet auquel vous devez pas renoncer, mais que vous devez retarder, Jean-Marc?
Alors, le projet principal, c'était l'aménagement, la continuation du lotissement Les Coquillères sur l'emplacement du stade, puisque c'est du foncier communal qui aurait permis donc de faire des maisons, des parcelles à cet endroit-là. et donc de transporter le stade ailleurs dans le village, plus près du centre ancien, plus protégé aussi du vent, pour le jeu au ballon, c'est toujours intéressant. Et donc cette possibilité qui nécessite de mobiliser, pour le coup, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, ça ne se réalisera sans doute pas. Tant que la situation, il faut passer un cap difficile jusqu'en 2024. Ensuite, on verra si on est en capacité de lancer cette opération. Mais d'abord, place aux économies et à la gestion du quotidien. Améliorer donc l'environnement, l'entretien de nos rues, de nos chemins. Plus de proximité avec les Morodonais, c'est ce qu'ils attendaient. Hein. Plus de communication avec eux, que ce soit avec nos applications et probablement très prochainement des réunions publiques dès que la situation sanitaire le permettra, pour discuter avec eux des projets qui les concernent au quotidien.
Et tout ça, pour reprendre l'expression de la personne qui a réalisé votre premier audit, dans un mandat de gestion. Sous-entendu, attention aux frites. Il faut faire très attention. Il y a quand même un projet, je me suis laissé dire, Jean-Marc Jansana, qu'il y a un projet auquel vous n'allez peut-être pas renoncer et que vous allez peut-être mettre en place rapidement. C'est un pump track, oui. C'est-à-dire un truc pour les jeunes, pour faire du vélo tout-terrain.
Oui, c'est quelque chose qui nous intéresse. On a beaucoup mis l'accent sur, et c'était tout à fait normal, sur la solidarité envers les seniors. Avec la vice-présidente du CCAS, Christina Pellegrin, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais maintenant, j'ai dit à mes adjoints, il faut vraiment qu'on s'occupe de notre jeunesse. On a une jeunesse qui est aux portes de Narbonne et qui a bénéficié de quelques équipements, cours de tennis, city stade, mais qui a vraiment besoin d'autre chose. Un nouvel élan et un nouveau message qui leur est adressé. On est allé donc avec mes adjoints à Coursan. On a été accueilli par Édouard Rocher qui nous a présenté ce magnifique équipement. Et effectivement, on est en train de calculer l'emplacement idéal, hein, pour qu'il puisse être quand même dans la proximité, et les financements donc, qui devront forcément être aidés pour qu'on puisse supporter cet équipement.
Voilà. Donc les jeunes Morodonais quand même peuvent espérer à quelle échéance ? Un an, deux ans ?
Je pense que ça peut se faire avant cette période charnière de 2024, hein, où la situation s'améliorera. Je pense qu'on peut quand même envisager de le faire dans la première partie du mandat, effectivement.
Voilà. Alors, on met l'eau à la bouche des jeunes Morodonais qui peuvent préparer leur vélo tout-terrain. Et Jean-Marc Jansana, on marque une première pause. On se retrouve tout de suite après.
Merci.